RTL Info.
Le journal Sonia Bernabeur-Mia.
Bonsoir. Un bilan qui prend de l'ampleur en Italie. L'effondrement d'un pont autoroutier en fin de matinée à Gênes a fait une trentaine de victimes et de nombreux blessés graves. Lancement d'une initiative pour revenir à une vision cantonale de l'école neuchâteloise. Syndicats d'enseignants et fédérations de parents d'élèves dénoncent des disparités de traitement selon les cercles scolaires et des coûts qui se sont envolés depuis la régionalisation votée en 2011. Florence Darbelay sera en piste samedi pour tenter de gagner son deuxième grand raid. La vététiste neuchâteloise sait que la concurrence sera plus vive que l'an dernier sur le mythique tracé de Verbier-Grimens, mais elle entend mener sa course sans se soucier de l'adversité. Les nuages ne devraient plus lâcher de gouttes, le temps s'annonce sec, cette nuit est bien ensoleillée demain. L'Italie compte ses morts. L'effondrement d'un pont autoroutier a fait au moins 30 morts et de nombreux blessés dans la ville de Gênes en fin de matinée. Ce bilan encore provisoire pourrait s'alourdir. Les précisions de Marceline Michon.
Un pont coupé en deux. Vers 11h30 ce matin, un viaduc de Gênes sur lequel passe l'autoroute A10 s'est partiellement effondré. L'édifice s'est écroulé sur une longueur d'environ 200 mètres et à une quarantaine de mètres de hauteur. Au moment du drame, une trentaine de véhicules se trouvaient sur le pont, a déclaré le chef de la protection civile italienne. Toutes les victimes sont des personnes qui se trouvaient dans ces véhicules. Plus de 200 pompiers ont été mobilisés autour des carcasses de camions et de voitures précipitées dans le vide. Les causes exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Au moment du drame, la ville de Gênes était en proie à un violent orage. Selon le journal italien La Repubblica, la foudre aurait touché la base d'un des piliers du pont et pourrait être à l'origine de l'effondrement. Le viaduc Morandi est l'un des principaux nœuds autoroutiers de la ville de Gênes. Il est parcouru tous les jours par des milliers de véhicules. Le pont a été construit à la fin des années 60 et rénové en 2016. Des travaux de consolidation de l'édifice étaient aussi en cours, a communiqué l'entreprise italienne chargée de la gestion des autoroutes.
Simplifier et harmoniser le système scolaire neuchâtelois, c'est ce que veulent les syndicats neuchâtelois d'enseignants, le SSP et le SAEN, ainsi que la Fédération des associations de parents d'élèves. Ensemble, ils ont lancé ce matin une initiative populaire cantonale intitulée « Pour une école équitable et efficiente ». Les porteurs du texte estiment que la régionalisation votée en 2011 avec la création de 7 cercles scolaires n'a pas eu les effets escomptés. Les coûts de l'école obligatoire se sont envolés et les disparités de traitement des élèves et des enseignants se sont creusés entre les centres scolaires selon les auteurs de l'initiative. Les explications de Marie Guinan, enseignante et membre du SSP.
Un élève en difficulté et qui a besoin de soutien n'aura pas le même soutien d'un cercle scolaire à l'autre. Donc pas le même soutien égale pas les mêmes chances de surmonter sa difficulté et de continuer d'avancer. Certains cercles scolaires ont des classes d'accueil par exemple pour les enfants allophones, d'autres cercles scolaires moins ou pas du tout, ce qui donne aussi aux enfants allophones une chance différente d'entrer dans la scolarité. Le soutien pédagogique, les dédoublements, l'aide qu'on donne aux élèves est complètement différente d'un cercle scolaire à l'autre.
Qu'est-ce qui va changer si votre initiative est acceptée?
Ce qui va changer, c'est qu'on va demander au canton de s'organiser pour reprendre les rênes du côté pédagogique. Après, ce n'est pas à nous de décider comment ça va se faire, mais ce qui va changer, c'est qu'il y aura, ce qu'on espère, une unité dans notre canton par rapport aux prestations, par rapport aux aides, par rapport au dédoublement, par rapport à tout ce qui va aider l'enfant qu'a des difficultés ou qu'a des manques ou à pouvoir progresser de manière équitable dans le canton, d'avoir une école dans notre canton.
Marie Guinan répondait à Jean-Paul Picci. Les initiants ont jusqu'au 11 février prochain pour récolter les 4500 signatures nécessaires. Voyage musical au centre-ville de Neuchâtel. Le coup d'envoi du 29e Buskers Festival a été donné il y a un peu plus d'une heure. Une vingtaine de groupes issus d'un peu partout dans le monde participent à cette édition qui se tient jusqu'à la fin de la semaine. Concerts acoustiques et spectacles attendent le public dans la zone piétonne et à la Ramée à Marin pour la journée de dimanche. Parmi les artistes présents figure l'ensemble Oxus, venu d'Ouzbékistan. Ces musiciens accompagnés d'une danseuse proposent de la musique traditionnelle, folk et classique de leur pays. Alors, quelle est leur première impression de Neuchâtel? La réponse de deux de ses membres, Shafkat Matia Koubouf et Ousnidine Atto.
When we came here, we saw lake.
And the mountains.
Quand on est arrivé, on a vu le lac et les montagnes. C'est vraiment un temps agréable, une très belle nature aussi. C'est pour moi comme dans un rêve.
It's for me like a dream.
Also, what I discovered, you manage many possibilities and easies for tourists.
Ce que j'ai découvert, c'est que vous avez développé beaucoup de possibilités pour les touristes. On a par exemple reçu des billets gratuits pour les musées à notre hôtel. C'est vraiment important, c'est vraiment pratique pour tous les touristes de visiter votre ville et d'en savoir plus sur elle et sur son histoire. C'est l'une des choses principales que je peux mentionner à ce stade.
History, it's one of the main things I can mention now.
Le Buskers Festival se tient donc ce soir et jusqu'à la fin de la semaine au centre-ville de Neuchâtel. La journée de dimanche se déroule quant à elle à la Rame et à Marin. Détail en lien sur rtn.ch. Bouffée d'air financière pour Fisnik Maksouni. Le réalisateur neuchâtelois est l'un des lauréats d'une bourse dotée de 20 000 francs attribuée par la Société Suisse des Auteurs. Cet argent lui permettra d'avancer dans l'écriture de son premier long métrage intitulé La Terre de mes entrailles. Ce film évoque le retour au Kosovo d'un homme originaire de ce pays et naturalisé suisse pour régler des affaires de famille. Seuls 4 lauréats ont été désignés dans cette catégorie sur 51 projets. Et on poursuit notre série d'été consacrée aux balades et endroits à visiter dans le canton de Neuchâtel. Parmi les nombreuses alternatives qui s'offrent en été, l'une est particulièrement prisée par les touristes. Les croisières sur les bateaux de la compagnie de navigation des lacs de Neuchâtel et de Mora qui plaisent tout particulièrement au directeur de tourisme neuchâtelois, Jan Engel.
C'est un must, ça vous permet de découvrir de manière très tranquille les joies du Farniente, de passer de port en port. Ça donne un petit air un petit peu de Méditerranée sur ces bateaux. Vous pouvez soit rester sur le lac de Neuchâtel avec plein de possibilités, tant sur la rive nord que sur la rive sud. Il y a aussi la possibilité, bien entendu, d'aller jusqu'à Mora par le canal de la Broye, de s'arrêter par exemple à la Sauge pour le centre de nature, d'arriver à Mora et de visiter la vieille ville, ou encore vous pouvez aussi partir sur le lac de Bienne et jusqu'à l'île Saint-Pierre, qui est aussi quelque chose qui est très recommandé. Donc on peut marier, je dirais, le ressourcement avec une belle façon de passer une journée tranquillement et bien installée.
À l'heure actuelle, de plus en plus de gens ont des bateaux individuels. Est-ce que ces croisières ont toujours le même engouement qu'il y a quelques années auparavant?
C'est deux choses qui sont séparées. Les personnes qui ont un bateau, qui achètent un bateau, sont peut-être plus à même d'aller où elles veulent, quand bien même il y a des endroits qui ne sont pas recommandés, voire même interdits, dans la région du Fanel, des réserves naturelles du Fanel ou de la Grande Carissée. Puis, par contre, vous n'avez pas cette possibilité de restauration à bord. C'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Et maintenant, la compagnie de navigation essaye aussi de développer des croisières à thème, de découvrir. Il y en a une récemment, il y en aura encore pour découvrir toute la faune et la flore de la région. Il y a aussi les fameuses croisières King Boat qui plaisent plus à une génération plus jeune de faire la fête à bord. Et puis bien entendu, on a le vapeur Neuchâtel qui permet de replonger dans cette fameuse période de la Belle Époque et de voir ce magnifique bateau et cette mécanique du début du XXe siècle tourner. C'est quelque chose qui vaut le détour.
Un sujet d'Alizée Lichty, la série d'été vous emmènera demain à la Belle Époque. Les partis bourgeois du Parlement, de l'UDC au PPD, émettent 6 bonnes raisons de rejeter les deux initiatives alimentaires et agricoles soumises au peuple le 23 septembre. Les textes sont qualifiés de dangereux par ce comité interparti pour qui ils provoqueront une flambée des prix des produits alimentaires et mettront en péril les accords commerciaux internationaux signés par la Suisse. De Berne, les précisions de Serge Jubin.
Les 4 partis bourgeois du Parlement, UDC, PLR, PDC et PBD, ainsi qu'Économie Suisse, des associations de consommateurs et gastro-suisse, appellent les Helvètes à rejeter les initiatives Fair Food et pour la souveraineté alimentaire. La stratégie agricole et alimentaire a été réglée en 2017 avec, disent-ils, l'adoption de l'article constitutionnel sur la sécurité alimentaire. Le PLR est le parti leader de la campagne des opposants aux initiatives agricoles. La conseillère nationale vaudoise Isabelle Moret ne mâche pas ses mots.
Elles ont un très joli titre.
titre qui les rend très sympathiques, mais il faut bien regarder le fond. Une de ces initiatives vise une soviétisation de l'agriculture. Elle veut transformer nos agriculteurs en fonctionnaires fédéraux à qui d'autres fonctionnaires expliqueraient le métier, ce qu'ils devraient produire et comment. La deuxième initiative, elle, vise à mettre sous tutelle les consommateurs qui n'auraient plus le choix. En fait, on leur imposerait ce qu'ils doivent manger et ce qu'il y a dans leur assiette.
Les adversaires des deux textes affirment encore qu'il faudrait beaucoup de bureaucratie pour les appliquer et qu'ils contreviendraient aux accords commerciaux internationaux signés par la Suisse. Si une large majorité de la classe politique fédérale rejette les initiatives, un premier sondage les donne toutefois gagnantes, mais c'était avant que les opposants ne sortent du bois.
En Grande-Bretagne, la police a arrêté un homme soupçonné d'être à l'origine de l'incident qui s'est produit ce matin près du Parlement à Westminster, à Londres. Un homme a percuté plusieurs passants avec sa voiture, faisant 3 blessés. Les forces de l'ordre suivent la piste d'un attentat terroriste. Pour l'heure, le véhicule est toujours sur les lieux de l'attaque. Il est en train d'être fouillé. Aucune arme n'a été décelée pour le moment. L'Aquarius s'est trouvé un nouveau port d'attache. Le navire humanitaire qui errait en Méditerranée a reçu l'autorisation d'accoster à Malte. L'embarcation transporte 141 migrants qui seront accueillis par 5 autres pays de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne et le Portugal. L'Aquarius est affrété par les ONG Médecins sans frontières et SOS Méditerranée.
RTL, il est 18h13.
Sport.
Transfert de poids au FC Sion. Le club de football valaisan a engagé Alexandre Song, âgé de 30 ans. Ce milieu de terrain défensif camerounais a notamment évolué à Barcelone et Arsenal. International à 49 reprises, Alexandre Song a participé à 2 éditions de la Coupe du Monde. Il a signé un contrat de 2 ans avec le FC Sion. Battu lors du chrono des championnats d'Europe de cyclisme, Stefan Küng a pris sa revanche. Le Turgovien a remporté le contre-la-montre du Tour du Benelux. Du même coup, il prend la tête du classement général. Elle a un trophée prestigieux à défendre sur ses terres d'origine. La vététiste neuchâteloise Florence Darbelay sera pour la 6e fois au départ du mythique Grand Raid Verbier-Grimmen samedi matin sur le coup de 6h30. Au programme 125 km pour 5000 mètres de dénivelé. Florence Darbelay avait bouclé l'affaire en 8 heures l'an dernier, remportant ainsi pour la première fois le classement féminin. Âgée de 41 ans, elle souhaite en faire de même cette année, tout en sachant qu'une concurrente au moins, Esther Suss, risque fort de lui barrer la route. Florence Darbelay.
À mon avis, la concurrence est nettement plus élevée. En tout cas, il y a une ou deux concurrentes qui théoriquement devraient me battre.
Ça, c'est de la théorie, mais néanmoins, sur une course de 8 heures, tout peut se produire, non ?
Oui, absolument. On n'est jamais à l'abri d'une chute, d'un pépin technique ou comme ça. Donc moi, je vais faire ma course. J'aimerais beaucoup passer en dessous des 8 heures. Encore une fois, je l'avais déjà fait en 2015. Donc je ne vais quand même pas faire une course au rabais et puis on verra devant ce qui se passe.
Il est important de ne pas trop calquer sa course sur l'adversaire, a priori supérieur à vous.
Je pense que c'est impossible de tenir 8 heures en sur-régime. Donc c'est vrai que les premières cartouches qu'on grille, si on les grille trop tôt, ça, après ça peut avoir des conséquences assez grandes sur la suite du parcours.
Un sujet proposé par Marcel Neuenschwander. En tennis, Stan Wawrinka pourra participer à l'US Open qui se tiendra du 27 août au 9 septembre. Les organisateurs du tournoi new-yorkais lui ont octroyé une invitation. Le Vaudois est retombé au 151e rang mondial en raison des problèmes physiques qui le plombent depuis une bonne année. Et en automobilisme, Fernando Alonso ne concourra plus en Formule 1. Le double champion du monde de la catégorie a annoncé qu'il s'arrêterait à la fin de la saison 2018. Son écurie McLaren ne donne pas de précision sur les intentions futures de l'Espagnol.
L'actualité continue, vous la retrouvez en tout temps sur rtn.ch ou alors sur l'application RTN que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Un ciel partagé entre nuages et coins bleus pour cette fin de journée, début de soirée. Quelques averses sont encore possibles, mais de plus en plus rares et principalement au-dessus du massif jurassien. Demain, le temps sera ensoleillé et chaud. Il fera jusqu'à 26 degrés en pleine, 22 à 1000 mètres d'altitude. Quelques cumulus devraient se développer en fin de journée, mais sans risque de précipitation. Et puis jeudi, un temps toujours ensoleillé, mais sous un ciel parsemé de quelques voiles d'altitude. Il fera chaud toujours, 29 autour du lac, 25 en montagne.